Et on poursuit cette fois avec cette chroniqueur, Éric Lantier. Éric qui a toujours ses petits sujets à lui que j'aime bien. Il va chercher des choses. Oui, il met le doigt des fois sur des bons, pas des fois, souvent même, pratiquement tout le temps, des bons sujets. Éric Lantier, comment vas-tu, Éric?
Très bien, très bien. Surtout que le printemps est en train de s'installer, il fait soleil, je suis très heureux.
Écoute, ça fait assez du bien, ça.
Absolument.
Hein? Là, Éric, cet après-midi, tu nous parles de Roberge qui s'attaque aux écoles religieuses illégales.
Ben oui. On en entendait parler du temps que les libéraux étaient au pouvoir et on continue d'en parler avec la CAQ parce qu'il y a trois groupes d'enfants qui sont particulièrement visés. Les enfants qui étudient dans des écoles religieuses illégales, donc qui n'ont pas reçu un permis du ministère de l'Éducation. Ceux qui sont scolarisés à la maison, mais qui n'ont pas eu des ententes officielles avec les commissions scolaires. Puis les enfants sans papier, donc on n'a pas de traces d'eux, ils n'ont pas de code permanent, on n'arrive pas à les identifier, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils reçoivent comme éducation. Donc, on veut faire le nettoyage là-dedans. Et un de ces trois groupes-là, évidemment, ce sont les écoles religieuses. On sait que les Juifs, il y a eu quand même un accommodement raisonnable qui a été fait. Donc, les Juifs pouvaient recevoir de l'éducation religieuse le jour, puis avoir l'éducation scolaire à la maison, pourvu que c'était qu'ils respectaient le régime pédagogique du ministère. Mais là, on veut vraiment faire un nettoyage en bonne et due forme pour s'assurer que tous les enfants sont formés adéquatement. Oui, mais moi je suis d'accord à ce que des parents disent on veut former nos enfants en fonction de nos valeurs, nos croyances, mais pas au détriment de ce que académiquement il y ait des carences ou qu'ils soient limités ou que ça les empêche d'aller au bout de leurs rêves et de leurs capacités. Parce que si un élève, par exemple, a été privé ou n'a pas reçu une formation adéquate en mathématiques, par exemple, puis il veut se lancer dans un domaine scientifique, ben il va être pénalisé. Je sais, j'étais directeur d'école, j'ai connu des gens qui ont des enfants qui ont fait l'école à la maison. Certains dépassaient les attentes, d'autres étaient en dessous des attentes, et ça prend des mécanismes pour régulariser ça.
C'est pas ton deuxième sujet, stimuler la motivation des élèves ou niveler vers le bas.
Oui, tout à fait. J'ai écrit un article là-dessus sur ericlantier.net, stimuler la motivation des enfants ou des élèves ou niveler vers le bas. C'est que on parle de plus en plus de rendre les projets spéciaux, spécialement les projets pour les élèves doués. On se dit, ah non, même si ça fait partie de l'école publique, ces projets de douance, on veut l'ouvrir à tout le monde pour pas discriminer parce qu'on croit que tous les enfants sont égaux. Moi, je suis pas à l'aise avec ça. Moi, ce que je propose plutôt, c'est que quand il y a des élèves qui sont plus doués ou qui ont plus de capacités, on doit leur en donner plus, les stimuler. Oui.
L'inverse aussi, par contre, hein?
Ben oui. C'est important. Alors, c'est pour ça que je dis, le système scolaire, au lieu de mettre tout le monde dans la même classe, parce que là, ce que ça amène, le résultat, c'est que ça brûle les enseignants. Un enseignant sur cinq veut quitter après 5 ans la profession. Au lieu de tout intégrer tout le monde, les plus faibles, les réguliers puis les forts, il devrait avoir des écoles spécialisées, sport-études, art-études, écoles internationales, des écoles régulières et des écoles qui se spécialisent dans les problèmes d'apprentissage particuliers. Comme par exemple, une école dans chaque région pour ceux qui ont des troubles associés à l'autisme, d'autres des troubles de dyslexie. Comme ça, tout le personnel est orienté vers une clientèle similaire et n'ont pas à s'écartiller pour essayer de remplir les rôles à tous les niveaux. Et si on avait des écoles spécialisées où est-ce que les spécialistes étaient tous là, ben il y aurait une vocation et là, à ce moment-là, chacun vivrait un dépassement plutôt que... Parce que ce que ça fait, là, c'est que les élèves faibles, même si on leur dit « vous êtes tous égaux », ils se comparent puis ils disent « ben non ». Moi, je suis le dernier, je comprends pas. Puis voilà. Celui qui va plus vite puis qui comprend tout, ben là, il dit ah ben moi, je suis pas motivé. Je veux dire, on va au rythme du plus lent.
Il manque de challenge.
Exactement. Ouais. Alors, c'est pour ça que je pense qu'on est au 21e siècle. On a de la technologie, on a des moyens pour stimuler la science trouve des solutions pour amener, par exemple, ceux qui ont des difficultés d'apprentissage à être motivés à leur niveau, puis de les amener le plus loin possible. Et je pense que c'est là qu'il faut aller, avoir une vision pour chaque clientèle.
Peut-être que ça pourrait aider à diminuer le décrochage scolaire.
Ben c'est sûr. Ben oui, parce que, écoute, admettons là, que toi, tu es fort au hockey, mais on t'oblige à jouer au basketball. Ça veut pas dire que tu vas réussir, là. Mais si, par exemple, on te dit, ben oui, mais on va te faire jouer au hockey, mais on va améliorer ton coup de patin, on va améliorer ton lancer frappé, voilà. Ben là, tu es à ta place.
Et voilà.
Hmm.
On a tout compris. C'est clair. Éric, maintenant,
mm-hmm.
le goût qui va utiliser sa disposition de dérogation pour protéger nos valeurs québécoises. Que c'est... Tu veux nous parler de ça? Là?
Ah, je trouve ça un peu délicat parce que si on est obligé d'utiliser une clause dérogatoire, c'est que dans le fond, on déroge à la Charte des droits et libertés. Maintenant, le nombre d'enseignants qui portent, par exemple, là on parle d'enseignantes, là, mais qui portent des voiles, ou même en ce moment, il n'y en a pas de policières qui portent un voile. Je pense qu'on est en train de tuer une mouche avec un bazooka. Ce qu'il faut sensibiliser, à mon avis, davantage, c'est dire, si tu t'identifies à une religion, assure-toi de pratiquer ta profession avec loyauté, avec impartialité. Moi, je pense que c'est beaucoup plus ça qu'on doit travailler. Parce que la femme porte un voile ou non, si, par exemple, elle traite l'individu en fonction de sa vision du monde et non pas en fonction des normes et des balises qu'on s'est données, ben on passe à côté, là. Et c'est pour ça que je me dis, avant d'en arriver là, il faudrait penser à une façon d'équiper chacun dans son rôle pour dire, est-ce que tu remplis bien ton rôle? Est-ce qu'en tant qu'enseignante, tu remplis bien ton rôle? Est-ce que tu gères bien ta classe? Est-ce que tu communiques, par exemple, les bonnes informations? Et moi, c'est beaucoup plus ça qui m'inquiète. Est-ce que les juges qu'on va nommer vont être impartiaux ou ils vont trancher en fonction de leur idéologie? Et moi, c'est ça qui me préoccupe davantage. L'autre chose, c'est que ça va être contesté devant les tribunaux. Ça, déjà, il y a des organismes qui vont contester ça. On n'est pas sorti de l'auberge.
Là. Non. Ça, c'est une grande bataille là, que le gouvernement s'engage à reprendre.
Mm-hmm.
Mais que penses-tu de la conseillère municipale, là, Lynn Chan, qu'est-ce qu'elle a vécu et de son statut qu'elle a fait?
Mm-hmm. Ouais.
C'est délicat ça aussi, là.
Ouais.
Est-ce que tu serais prêt à te faire soigner par quelqu'un qui est voilé?
Ben écoute, moi, ça me dérange pas. Ça, c'est la même chose que me dire, c'est comme si on nous avait dit il y a 50 ans, es-tu prêt à te faire soigner par quelqu'un qui est de peau noire? Pour moi, si la personne elle est compétente, si la personne remplit bien son rôle, qu'elle soit voilée ou non, pour moi, c'est secondaire. Ça fait partie de sa liberté individuelle. Tant qu'elle m'impose pas ses croyances, tant qu'elle m'impose pas sa façon de vivre, si elle veut s'afficher, si ça enlève rien à son professionnalisme, j'en vois pas de problème. Mais il y a quelqu'un qui me disait, par exemple, on va accepter qu'un homme soit habillé en femme et soit policier. Donc, et on sait très bien que c'est un homme, mais il est habillé en femme puis il est policier. On va l'accepter. Mais on n'acceptera pas qu'une femme porte un voile. Alors, je me dis, oh, là, il y a quelque chose à considérer. Maintenant, si à cause de ses croyances, elle, par exemple, elle ne me donne pas les soins auxquels j'ai droit, là, ça commence à poser un problème. À moins que ce soit un cas de conscience. Si, par exemple, parce qu'une femme qui est musulmane, admettons, qui veut pas, par exemple, donner un bain à un homme parce que dans sa conscience, elle est mal à l'aise et inconfortable, qu'elle ait un voile ou non, elle va contester auprès de son patron ou sa patronne l'idée qu'elle doit donner un bain à un homme. Donc, vois-tu que l'enjeu, c'est pas le voile. L'enjeu, c'est le vécu sur place. Pardon?
Le service, en fait.
Exact.
Ouais.
C'est pour ça que moi, je me dis, oui, on peut en débattre de ces sujets-là, puis c'est important, mais le vrai fond, là, le vrai problème dans les hôpitaux, là, c'est pas le voile, c'est l'attente dans les urgences.
Oui, c'est tellement important.
Ben oui.
Mais à quelque part, les gens sont-ils en mesure d'exiger de pouvoir identifier visuellement une personne qui va lui donner une prescription qui peut modifier sa santé, qui va jouer avec sa vie, de pouvoir l'identifier visuellement sans que... Faire affaire avec une personne qui est voilée.
Ah, OK. Mais là, c'est une autre chose, là. Parce que là, si on parle juste d'un voile sur les cheveux ou si on n'est pas capable de voir son visage, là, c'est autre chose. Parce que c'est important qu'on puisse identifier la personne, qu'on puisse bien communiquer avec la personne. Donc, si le visage est couvert puis on voit à peine les yeux, c'est même plus une question de religion ou de droit individuel. C'est une question d'identification, de sécurité, de communication. Qu'est-ce qui me dit que c'est pas un fraudeur qui est là? Puis, alors, ça, là, on rentre dans une autre case. Pour moi, ça, c'est l'identification, la sécurité, la communication. Et c'est pour ça que moi, je suis d'accord à ce que les services soient donnés ou offerts ou reçus à visage découvert. Ça, pour moi, ça, c'est clair. Mais c'est pas un enjeu religieux, c'est un enjeu de sécurité, ça.
Et voilà. Mais c'est pas ce que a vécu Mme Shand, c'est pas ça. Elle dit qu'elle s'est fait soigner par un médecin qui était voilé.
Mm-hmm.
Elle pouvait pas l'identifier.
Ah. Ouais. Mais là c'est autre chose.
Oui, c'est autre chose. Et en tout cas, moi, personnellement.
Ah ben non.
Écoute, t'as intérêt à monter ton visage, si tu veux.
Ben oui. Ben oui, c'est sûr. Parce que si, admettons que le médecin, qu'il soit un homme ou une femme, s'il est voilé, puis il pose un geste inapproprié, après ça, je vais au poste de police, on me dit, veux-tu identifier la personne? Je peux pas.
Voilà. C'est un voile,
j'imagine,
toi, tu sais.
Ben non, ça pour moi... C'est au-delà de la religion. Là, c'est juste du bon sens. Là.
Mm-hmm. Mais, souvent, tu vas donner un pouce et on va te demander, dans un an, deux ans, trois ans plus tard, on va te demander un pied.
Ouais.
On a donné un pouce, on va être obligé de donner un pied, deux pieds, trois pieds plus tard.
Ouais.
Mais, à un moment donné, il faut... Chaque fois, il faut mettre une limite à ça.
Oui.
Et le coup de bazooka que tu parles, là, c'est peut-être ce qu'il fait.
Ouais.
il veut peut-être mettre une limite à ça. Là.
Tout à fait. Mais je pense que là où est-ce que la limite du bon sens le dicte, c'est à visage découvert. Maintenant que les cheveux soient voilés,
ça
c'est une autre chose. À moins que si une infirmière, à cause qu'elle a les cheveux voilés, ça cause un problème au niveau de la sécurité dans un certain lieu. OK, on dit tu l'enlèves parce qu'il y a un enjeu de sécurité. Maintenant, dans tous les cas, les services de l'État devraient être à visage découvert, donné et reçu. Pour moi, ça, c'est une question de sécurité, d'identité. On peut pas revenir en arrière là-dessus pour moi.
Non, ça même pas de bon sens.
Ben non. C'est clair.
mais cette femme-là qui s'est faite mettre à la porte du parti d'Anjou, en fait, le maire d'Anjou, il l'a carrément mis dehors là, du parti. Elle disait que, bon, si tu n'avais pas eu en urgence ce qu'elle a vécu à l'hôpital, ça ne serait pas fait soigner par une personne qui ne pouvait pas voir le visage, en fait. Là.
Mm-hmm.
Bon, mais elle était fâchée parce qu'elle voyait que l'islamisation entrait fort dans le pays.
Mm-hmm.
Enfin, bref, écoute.
Ouais.
On a fini d'en parler.
Oh non, on n'a pas fini d'en parler. Puis c'est important qu'on en parle. Plus qu'on en parle, plus que justement, on réalise qu'il y a des nuances à apporter. Il y a des principes généraux qui vont nous guider. Puis en discutant, on va arriver à des consensus. Ça sera jamais parfait, mais au moins, ça ne sera pas imposé d'une manière unilatérale et on va grandir avec la population puis le bon sens qui nous guide en tant que société.
Éric, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Hey, encore une fois. J'ai adoré. J'aime ça.
C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Jocelyn. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, mon ami. Éric Lantier, mesdames et messieurs.